Bonjour, Morgane sur CFM, dans l'émission « Les hommes sont des animaux comme les autres », l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Aujourd'hui, Valérie Proust, praticienne en fleur de Bac, va nous parler de l'état d'abattement et de désespoir. Ensuite, je vous parlerai des océans, de leur pollution et des solutions mises en place.
Giant steps are what you take
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, de quoi tu as choisi de nous parler aujourd'hui ?
Alors, je continue à expliquer les groupes d'état de fleurs. Donc, aujourd'hui, c'est le groupe d'abattement et de désespoir.
Oui.
Donc, dans ce groupe de fleurs, c'est le groupe le plus important parce qu'il a le plus de fleurs. Il y en a 8 au total. Et hormis Star of Bethlehem, qui est ce qu'on appelle là, en français la Dame d'Onzeur ou l'Étoile de
l'Acteur.
Voilà. Ce sont toutes des fleurs d'arbres. La particularité des fleurs d'arbres, c'est qu'elles sont, elles vont rééquilibrer des états négatifs. Bon, je mets négatif entre guillemets, mais bon, les états d'esprit déséquilibrés, si on peut dire, les plus profondément ancrés. Voilà.
D'accord.
Donc, on va commencer par l'arch. C'est le mélèze. On est devant un état de manque de confiance en soi ici.
Oui.
La personne est persuadée d'avance qu'elle est incapable, qu'elle n'a pas de qualité pour réussir quelque chose. Donc elle va démontrer systématiquement aux gens que c'est même pas la peine qu'elle essaye de faire quelque chose parce
d'accord.
que de toute façon elle a déjà, elle est nulle. Et que
c'est les gens qui se rabaissent tout le temps à dire ah, mais j'y arriverai pas.
Oui,
et tout ça,
exactement. Ouais. Et ça, si elle essaye quelque chose et que ça rate, ça va renforcer son opinion, et finalement c'est quelqu'un qui n'essaiera plus de faire quoi que ce soit, qui ne saisira pas les opportunités qui s'offrent à elle, parce que
c'est perdu d'avance en
voilà
fait.
Et puis il y a un blocage, elle veut surtout pas être confrontée à l'échec. Donc cette peur d'être confrontée à l'échec l'empêche de passer à l'action.
Et elle préfère rien tenter plutôt que de
exactement
pas réussir,
ouais. Exactement. Et du coup ben dans sa vie on stagne. Et puis, on finit par être dans un sentiment permanent d'infériorité. Et quand on est vraiment dans un état comme ça de manque de confiance en soi, de se sentir nul et toujours dans l'échec, ben il y a certaines personnes qui vont se mettre à boire pour compenser, enfin pour essayer de fuir. Dans l'alcool, la drogue, etc.
Oui.
Soit pour fuir, on va dire, ou soit pour donner le change, pour justement essayer de quand même paraître et de passer au-dessus de cette notion de sentiment d'infériorité.
Oui.
Voilà. Et c'est aussi également une fleur qui est très intéressante quand on doute de sa propre créativité, de son incapacité, quoi. Qu'on est vraiment tout le temps confronté à l'échec. Alors chez l'animal, même chez l'être humain, il peut y avoir une perte de confiance vis-à-vis d'une personne quand elle se comporte plus comme on attend qu'elle se comporte envers nous. Quand quelqu'un qui a pu avoir un accident ou quelque chose comme ça n'a plus la même, il y a eu une rupture quelque part. Puis on n'ose plus retourner vers elle. On pense qu'elle nous aime plus ou qu'elle est plus aussi gentille qu'avant, etc. Surtout pour l'animal, il peut être confronté parfois à ça après une absence, un accident ou voilà.
Quelque chose qui a changé, ouais.
Ouais, le sentiment derrière, c'est douter de reconquérir la personne, de retrouver sa place. Et du coup, elle ne fera pas d'effort. Si par exemple, il y a un autre animal qui rentre dans le... Ben peut-être que si elle se sent vraiment déstabilisée et qu'elle se sent moins forte que l'autre, elle fera plus du tout d'efforts pour retrouver son fonctionnement, sa place auprès du maître, etc. Ça peut être une situation comme ça.
Et du coup, ça peut-être être bien pour les, par exemple, quand on a un animal qui est très dominant dans une maison et des chats qui peuvent se sentir du coup en position d'infériorité et qui se mettent à uriner partout ou des choses comme ça.
Oui, ouais. Encore là, peut-être que l'animal cherche à repositionner son territoire, mais dans ce cas-là, l'animal ne le fera même pas parce que il se sent plus du tout. Ça l'intéresse même pas de se battre.
Ouais, il est plus dans le.
Ouais.
Jeu.
Il est plus dans. Ouais. Et donc là, on est devant quelqu'un qui, en général, dans cette situation, pour revenir aux gens, mais. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à l'échec et ne comprend pas que ce qui est important, c'est de passer à l'action dans la vie.
D'accord.
Et que donc l'élixir va permettre de comprendre que c'est la satisfaction d'avoir ressenti qu'on a agi qui motive en fait, qui booste et qui permet de prendre conscience que aussi bien l'échec que le succès font partie de la vie. Mmh. Et on ose petit à petit prendre des risques et on n'est plus découragé par le résultat. C'est plus le résultat qui est important. Mmh. C'est vraiment de se remettre à l'action dans sa vie.
Oui.
Et de reprendre sa vie. Ça permet de refaire des opportunités, de se remettre un peu en course aussi. Voilà.
Et par rapport à, du coup, la perte de confiance et tout ça, un cheval qui aurait une perte de confiance envers son cavalier, par exemple, qui aurait du mal à se livrer à son cavalier ou qui, du coup, réussit pas bien certains exercices et qui pourrait, du coup, se bloquer ou des choses comme ça, ça pourrait correspondre?
Ça pourrait aider, oui, ça pourrait aider. Ça peut être associé à d'autres fleurs qui peuvent être dans le lien de ressenti par rapport à la personne, par rapport au couple cavalier cheval. Mais oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Quand il y a eu des échecs et que on a plus envie d'y retourner parce que le résultat,
oui,
l'échec
du coup,
est trop.
Par exemple, un cheval qui aurait raté une compétition et qui du coup n'a plus trop d'entrain après pour faire les autres entraînements.
Oui, quand il y a quelque
pour
chose.
Donner un peu de motivation à ce niveau-là, peut-être.
Tout à fait.
D'accord.
Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire pour l'arche. Alors ensuite, je vais parler de pine. C'est le pin. Qui est la fleur qui concerne le sentiment de culpabilité. Donc là, on est face à quelqu'un qui s'excuse constamment, qui a toujours peur de commettre une erreur.
D'accord.
Alors ça va apporter un état d'abattement, d'épuisement, parce que c'est très fatigant d'être toujours en train de s'observer et de chercher à savoir si on a bien fait ou mal fait. Et c'est quelqu'un qui, au fond de lui, recherche la perfection, pas pour briller ou quoi que ce soit, mais par peur de déplaire ou de déranger. Donc, elle va culpabiliser de prendre du repos, des loisirs. Elle va s'accuser de profiter de certaines choses. Ça amène les gens à ne pas s'accorder de loisirs, à pas savoir trouver du plaisir dans la vie. Et derrière ça, c'est il y a une forme comme un excès d'humilité qui est en même temps un peu un excès d'orgueil refoulé ou de sentiment de supériorité.
D'accord.
Mais c'est masqué et c'est inconscient façon. Hein,
la personne ne s'en rend pas forcément compte.
Il y a au fond de la personne un sentiment. Une croyance que on a fait quelque chose de mal, qu'on a fauté. Et en fait, c'est la personne, elle s'épuise vraiment moralement à tout le temps s'observer et à toujours essayer de vérifier que là c'est OK, j'ai pas fait de bêtises. Bon, on a discuté avec des amis, on a passé une soirée, elle repasse en boucle pour dire si elle a pas fait de ce qu'on va on peut dire de conneries.
Ouais.
si elle a pas été maladroite ou voilà. C'est vraiment quelqu'un qui va dans ce qu'elle a fait ça a été correct dans les actes dans la journée, c'est vraiment quelqu'un qui se fatigue, qui s'épuise et qui est toujours en train de se persécuter en fait quelque part, de jamais se reposer pour toujours être soi-disant parfaite, mais
d'accord,
ça c'est vraiment un challenge épuisant, quoi.
De tous les moments, ouais.
Voilà. Donc, la fleur, elle va permettre de faire la différence, justement, entre être responsable et être coupable.
D'accord.
Et en fait, ça permet de sortir de l'état permanent de stress qu'il y a derrière. En état de culpabilité permanente, on est sans arrêt en insécurité. Et très vite, ce sentiment d'insécurité, on le perd. Parce que on relaxe. Il y a un soulagement qui s'installe et on apprend à constater, à reconnaître ses erreurs quand il y en a, mais aussi à se réjouir de ses réussites. Donc du coup, on apprend petit à petit à reprendre du plaisir pour les choses et pour la vie, enfin pour le plaisir, pour apprécier la vie et réinstaller de la joie et sortir de cet état quasi omnubilant qui fait qu'on
est toujours...
Tourner
en rond un peu là.
Exactement, complètement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très reposant. Voilà. Ensuite, pour les animaux, ben c'est aussi quand peut-être un animal a fait une bêtise au moment où les animaux apprennent, les petits chiens
qu'ils ont fait pipi dans la maison, qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils ont
quand un chien il veut un peu dévaster, manger les chaussures, on dit truc comme ça. Et bon, je pense, ça m'étonnerait qu'on définisse, qu'on trouve un sentiment de culpabilité chez les animaux.
Mais la question reste ouverte.
Voilà. Mais ça peut aider quand il y a des peurs et pour des animaux qui sont très très timides et qui osent pas et qui savent pas trop s'y prendre et ou des animaux qui ont été battus, du coup il y a les chocs derrière, mais dans cette peur d'approcher, ils vont appréhender et tout et voilà. Ça libère parce que c'est quand même ça installe quand même un sentiment d'insécurité au fond et ce sentiment d'insécurité va s'estomper au fur et à mesure, donc ça peut être vraiment utile à cet endroit là voilà ce que je peux dire pour l'instant sur Pine.
D'accord.
Voilà, ensuite donc je peux parler de Elm. Alors c'est la fleur du sentiment d'être dépassé par ses responsabilités quand on fait trop de choses et que on n'en peut plus,
on a trop de boulot,
on peut pas, voilà, et que là on peut pas nous rajouter quelque chose sinon on tombe, on s'écroule parce que on peut plus, on sait plus où donner de la tête, il y a plus de priorité parce que tout est prioritaire. On a l'impression de plus être à la hauteur de ce qu'on attend de nous, quoi. Par contre, cette personne se met beaucoup la pression. Elle a tendance à croire qu'elle peut pas déléguer. Elle sait pas bien le faire. Et va penser que si c'est pas lui qui le fait, personne va pouvoir la remplacer exactement. Donc ça, c'est un peu le sentiment erroné dans cette situation. Mais vraiment, l'ampleur de la tâche, la personne va se sentir vraiment écrasée et c'est pas un petit mot, quoi. Ça peut rendre vraiment déprimé, on n'en peut plus. Quand des gens font le même travail avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges depuis des années, qui au bout d'un moment, paf, ils sont saturés, le moindre truc, ça devient difficile à gérer, etc. Et vraiment, une tâche supplémentaire, ça peut créer des sentiments de. Dans ces cas-là, la personne, elle tombe dans des sentiments de dévalorisation, de être incapable, de pas du tout être à la hauteur, et ça peut l'amener vraiment dans des états de grand découragement. Ce sont en général des états passagers, mais qui sont assez difficiles à remonter. Dans les cas extrêmes, la personne, si ça dure trop longtemps, ça peut amener à des grandes angoisses. Ou des grosses peurs, paniques, qu'on nous rajoute quelque chose à faire en plus
de
l'imprévu, quoi. Donc la personne, elle va être dans des états de stress assez énormes.
Du coup, ça pourrait correspondre à des animaux pour lesquels les propriétaires demandent beaucoup trop de choses ou trop de compétition ou trop d'exigences par rapport à ce qu'ils peuvent donner, et du coup que ça engendre un stress à ce niveau-là.
Oui, parce que aussi bien chez les personnes que chez les animaux, il y a un état de perfectionnisme derrière.
Oui, ce qu'ils veulent bien faire.
Parce qu'en même temps, ils sont hyper compétents, hyper capables, très intelligents. Donc, ils ont appris à assumer et pour eux, ça va de soi. Chez les animaux, on peut parler des chiens, par exemple, qui savent instinctivement ce qu'il faut faire dans certaines situations. Un animal qui prévient parce que le réveil a pas sonné qu'il faut se lever, il va vous réveiller, vous y avez jamais appris, mais il arrive à faire ça, ou il vient aboyer parce que le bain va déborder, ou parce que il y a la gazinière, le feu, il est toujours allumé, enfin, voilà, c'est des animaux qui, des chiens, qui ont des, si on parle des chiens, et qui ont des sens très développés comme ça. À côté de ça, c'est aussi des animaux qui aiment beaucoup leur confort. Des animaux et des personnes. Et si c'est pas installé comme ils veulent, ou si les croquettes c'est plus les bonnes, la nourriture a changé,
ou la couche, changé de place, ou la couverture,
ou le tapis, la couverture elle est froissée. Enfin, voilà, ils sont très.
Ils aiment bien leur petite habitude, en fait.
Voilà, exactement. Ils aiment pas qu'on leur dérange leur couche ou leur nourriture.
D'accord.
Donc ça peut permettre justement d'observer et de voir si la fleur correspond dans ces cas-là. Alors ça va apporter justement de l'assurance chez la personne qui est dans son sentiment de dépassement, de débordement. Ça va ramener le sentiment de compétence et d'organisation. Et ça permet de relativiser et de d'instinctivement trouver le bon timing pour faire les choses, les bons choix pour l'organisation, trouver à nouveau le sens des priorités et d'intégrer le fait que on a l'ampleur et le temps pour faire les choses. On a vraiment, on est disponible et que tout n'est pas à être fait en même temps.
Ouais.
Et que on a le temps et la possibilité de s'organiser et qu'on a toujours les compétences et qu'on est toujours capable de faire les
choses.
D'accord. Et ça, c'est ça fait revenir, on ressort la tête hors de l'eau.
De l'eau, ouais. Ouais. Et je pense par exemple à des chiennes qui ont eu une très grande portée. Elles ont à s'occuper de tous les chiots. Elles peuvent se sentir débordées par tout ce qu'il y a à s'occuper et qui sont épuisées. Peut-être aussi ça pourrait aider.
Fait, ouais.
Ou un animal qui a lutté longtemps dans une maladie et qui du coup est aussi fatigué de ça.
Exactement. Ça peut... Et associé à des fleurs, par exemple, quand il y a de l'épuisement, une fleur qui va redonner de l'énergie comme Olive ou voilà. En association avec une autre fleur qui correspond, oui, tout à fait. Mm-hmm. Donc là, c'est vraiment l'animal qui va retrouver vraiment son assurance. Ouais, tout à fait.
Ok.
Voilà. Donc là, je vais passer maintenant à Sweet Chestnut, qui est la fleur de châtaignier.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est une fleur très très importante. Qui est la fleur qui correspond à un état extrême d'angoisse mentale. C'est vraiment un état de grand, grand désespoir.
Oui.
C'est quand la personne, elle a tenu bon pendant des années. C'est les gens qui sont hyper courageux moralement, malgré les circonstances de la vie difficiles, des choses, des grands chocs,
des deuils, des choses comme ça.
Oui, des difficultés à surmonter, des maladies ou des grandes séparations, des choses très très dures. Et puis il y a un jour quelque chose qui s'est cassé chez la personne parce que elle en peut plus. Et il y a vraiment, on ne sait plus à quoi se raccrocher, on est abattu. Et la personne se sent solitaire et vraiment désespérée parce que ces gens-là, ils vont pas se plaindre.
Ils n'encaissent rien.
Ouais, ils sont tellement courageux que, malgré un chagrin immense, et puis la persévérance qu'ils ont, elles cachent vraiment leur souffrance à leur entourage. C'est souvent des états qui sont liés aux grandes transitions, à des passages dans la vie. Faut passer à autre chose, quitter, mais on n'a pas réussi encore à se recréer le futur. On ne sait pas vers quoi on va. Suite à un deuil, un divorce, quelqu'un qui change de train, enfin qui se retrouve au chômage, ça peut vraiment vraiment perturber profondément. Et surtout quand on a déjà eu plein d'épreuves à surmonter et que on a fait tout ça courageusement en gardant foi ou espoir dans la vie. Et là. On est face à un mur. C'est vraiment.
On n'y arrive plus là.
On sait plus. On sait plus ce qui va se passer, mais on n'est même pas capable de se projeter. Et la souffrance, la tristesse est trop profonde. Et dans ces conditions, on peut appeler ça un état. On peut considérer que ça comme un état initiatique. C'est les états de ce qu'on appelle les petites morts. En principe, on n'est plus les mêmes après. Mais la transition est vraiment très très difficile. Et là, la fleur de Sweet Chestnut est vraiment une fleur de grand secours parce que elle permet de retrouver confiance. En fait, on s'abandonne à la vie. On s'installe dans une vraie vraie confiance en fait dans la vie. Et petit à petit, tout redevient possible. Les murs s'effondrent et puis on prend conscience que il y a des projets qui peuvent renaître. C'est comme les fleurs au printemps.
Elles sont pas toutes mortes.
Voilà, le printemps revient toujours. C'est vraiment la transformation se fait. Le processus de changement se met en place. On intègre quelque chose. C'est
le renouveau vraiment.
Voilà, c'est vraiment un renouveau. C'est une de la lumière qui revient à l'intérieur et on va pas rentrer dans quelque chose d'hyper optimiste ou quoi, ou optimisme, mais c'est vraiment la certitude que la vie continue. Mmh. Et que tout peut revenir, qu'il y a des solutions à tout et que les choses ne sont pas insurmontables, on retrouve de l'intérêt et on trouve ses propres solutions.
Oui.
Vraiment.
Et du coup, par exemple, ça pourrait être utile pour des animaux qui ont eu des expériences très difficiles, comme par exemple des animaux qui sont sortis de laboratoire sur la vivisection, ou alors qui ont été récupérés d'élevage industriel,
oui, sûrement,
comme il y avait les poneys dans les mines avant aussi, des choses comme ça.
Ouais, ouais.
Des animaux qui ont été vraiment
très difficiles.
Conditions très difficiles.
Et également, on parlait de petites morts, mais c'est la fleur, ce qu'on appelle la fleur initiatique, la fleur de la grande transformation. Mmh. Et du coup, un animal qui doit mourir.
Mmh.
Pour permettre de quitter un certain état,
ouais.
Et mais sans stress.
Donc ça peut être une aide à la fin de vie,
toute
du coup.
Ouais, vraiment, d'accord. Tout à fait, ouais. Donc c'est vraiment une très très belle fleur, hein. Voilà.
Ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler des océans, de leur pollution et des solutions. D'après une étude publiée le 19 janvier par le Forum économique mondial de Davos, d'ici 2050, il y aura plus de plastique en poids que de poissons dans les océans du globe. L'utilisation du plastique, matériau pratique et peu coûteux, a été multipliée par 20 ces 50 dernières années. Et un quart de cette production concerne uniquement les emballages. Mais seulement 14% des emballages en matière plastique sont collectés pour être recyclés. Un taux extrêmement faible par rapport aux autres matériaux, 58% pour le papier et jusqu'à 90% pour le fer. Pire, presque un tiers de tous les emballages en matière plastique produits dans le monde atterrissent dans une poubelle et finissent dans la nature. Pour le Forum de Davos, la seule solution d'éviter un désastre est d'améliorer considérablement l'économie du recyclage. Pour cela, il faut inciter les citoyens à non seulement collecter et trier le plastique, mais aussi à privilégier les emballages recyclables. L'autre priorité est de convaincre les pays d'améliorer leur système de collecte des déchets. Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, les sacs en plastique à usage unique devraient être bannis des caisses et supermarchés français à partir du 1er janvier 2016. Cette mesure, qui avait déjà été repoussée à la fin du mois de mars, devrait désormais entrer en vigueur le 1er juillet. Comme le rappelle Le Monde, la vie d'un sac plastique peut durer jusqu'à 4 siècles pour un usage qui n'excède souvent pas 20 minutes entre sa distribution chez le commerçant et le déballage des courses à la maison. En France, près de 1000 sacs plastiques sont distribués chaque seconde, une consommation ahurissante lorsqu'on sait que la majorité de ces déchets finissent dans la nature et les océans. Suivant l'exemple de l'Allemagne, où bio et vrac sont de pair, les magasins de vrac se développent en France. L'offre est là et le consommateur est de plus en plus sensible à cette nouvelle façon de consommer. Une boutique éphémère, Biocop 21, a été ouverte sur Paris lors de la COP 21 pour proposer uniquement des produits biologiques et écologiques en vrac 100% sans emballage. Les consommateurs ont été invités à venir directement avec leurs propres contenants. Pour ceux qui n'y auraient pas pensé, le magasin propose des bocaux en verre, des pochons en coton issus d'une culture biologique contrôlée et des algobols, des bols fabriqués à partir d'algues 100% recyclables et durables. L'avantage du vrac reste de prendre uniquement la quantité souhaitée pour ainsi éviter la surconsommation. Ce qui semble nécessaire quand on sait que près de 50% de la production alimentaire est gaspillée, jetée ou perdue. La qualité du bio est souvent mise en perspective avec son prix plus élevé. Or, le vrac a l'avantage de faire baisser les coûts relatifs aux emballages, qui représentent environ 15% du produit. À chaque passage en caisse, vous payez en effet le produit contenu, mais aussi son contenant, dont le tarif varie souvent en fonction de celui des matières premières, aluminium, acier ou plastique. Le vrac a donc un intérêt écologique, mais aussi économique, que nos compatriotes canadiens et américains ont bien compris depuis des années. Et pour cause, le bio 100% vrac et sans emballage est loin d'être novateur outre-Atlantique. Le concept est adopté de façon très naturelle par les citoyens, notamment dans l'Oregon, à San Francisco ou encore à Montréal, région et ville pionnière dans le recyclage des déchets. Pour les produits liquides, une entreprise, 3J Développement, a mis en place des solutions pour les magasins qui permettent aux consommateurs de se servir lui-même la quantité voulue en réutilisant son flacon plusieurs fois avec un maximum de sécurité et d'hygiène. Les avantages sont nombreux. Déjà, le prix sur les produits est entre 15 et 30% moins cher au kilo, choix de la quantité pour le consommateur, et bien sûr, économie sur les emballages, le flacon pouvant être réutilisé jusqu'à 20 à 30 fois et donc diminution importante du volume de déchets. Les conteneurs 3J Développement peuvent contenir les huiles, les sirops d'agave, le miel ou des liquides non alimentaires comme les produits d'entretien, lessives, assouplissants, nettoyants multi-usages, etc. et cosmétiques comme le gel douche, les crèmes lavandes, les shampoings. En parallèle avec la réduction des déchets, d'autres solutions émergent. L'année dernière, Boyan Slat, un étudiant néerlandais de 19 ans, surprenait le monde en dévoilant une solution astucieuse pour nettoyer les océans. Son projet, baptisé Ocean Cleanup, va être testé une première fois en mer du Nord. Il raconte avoir pris conscience de la nécessité de nettoyer les mers à 16 ans lors d'une expédition de plongée en Grèce où il a pu observer plus de sacs plastiques que de poissons. Face à l'indifférence générale et à l'absence de sponsors, il crée sa fondation. Il a commencé à étudier la possibilité de débarrasser les océans du monde et des millions de tonnes de plastique qui les polluent à l'occasion de son projet de dernière année de lycée. Après quelques centaines d'heures de travail supplémentaire, il a présenté une conférence TEDx à Delft en octobre 2012, un concept qui pourrait permettre de retirer des océans 7,25 millions de tonnes de plastique en 5 années à peine. Il y a dans les océans de la planète 5 principaux gyres océaniques, gigantesques tourbillons animés par la force de Coriolis. Tous entraînent dans leur courant des tonnes de déchets qui restent bloqués éternellement. On y trouve en très grande majorité des plastiques, auxquels il faut généralement entre 50 et 1000 ans pour se décomposer. Le plus tristement célèbre de ces gyres se trouve dans l'océan Pacifique et a été surnommé Vortex de déchets ou 8e continent, sachant que les Américains comptent l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud comme deux continents, et le 7e continent c'est l'Antarctique. Il a été dit que les déchets recouvrent une surface deux fois grande comme le Texas, mais il n'existe en fait pas d'estimation fiable de la taille de cette soupe de plastique. Et pour cause, le 8e continent est transparent pour les satellites. On ne peut voir les tonnes de micro-débris issus de la dégradation de déchets plastiques qui le composent que depuis le pont d'un bateau. Ils sont pourtant plus nombreux que le plancton. Ces déchets plastiques, ainsi que d'autres plus gros, tels les bouchons de bouteilles ou les filets perdus en mer, sont consommés par les oiseaux, les poissons et les mammifères marins. On trouve régulièrement des baleines à bosse et cachalots échouées sur les côtes, des dizaines de kilos de matière plastique obstruant leurs estomacs. On estime à une centaine de millions les oiseaux marins qui meurent dans les mêmes conditions, notamment des albatros qui confondent les bouchons de plastique avec de la nourriture. Les poissons consomment eux aussi des micro-débris qui transportent des polluants tels que le PCB et le DDT. Ceux-ci se retrouvent d'ailleurs ensuite dans nos assiettes.
Le capitaine Charles Moore, qui a découvert le vortex de déchets du Nord Pacifique, a estimé qu'il faudrait 79 000 années pour tout nettoyer avec les moyens conventionnels, c'est-à-dire en utilisant des bateaux équipés de filets qui pêcheraient les déchets plastiques. Boyan Slat propose une solution radicalement différente qui permettrait de nettoyer les océans en seulement 20 ans. Au lieu d'utiliser de l'énergie pour se battre contre les courants marins, le projet Ocean Cleanup s'appuierait sur des bases fixes et laisserait les courants amener les déchets dans ces barrages flottants. Selon une hypothèse qui nécessite d'être testée, le plancton pourrait nager en dessous des barrages, mais même les plus petits morceaux de plastique resteraient bloqués. En fait, le principe est simple, un système de longs bras flottants placés sous l'eau à des endroits stratégiques contre lesquels se colleront les plastiques. Ces derniers seront ensuite piégés, stockés dans une tour flottante et récupérés par camion-citerne quelques semaines après pour être recyclés. Cette tour centrale pourra contenir jusqu'à 3000 m3 de plastique. Pour que la totalité du projet aboutisse et que l'ensemble des flots soit nettoyé, il faudrait au moins récolter 300 millions de dollars. C'est pour cela que Boyan Slat a abandonné ses études à l'université, à avoir tout son temps à consacrer à son projet et sa fondation pour élargir au maximum son action. Et pourtant, pour beaucoup d'experts, ce projet serait totalement irréalisable. Selon eux, l'initiative ne traiterait qu'une infime partie du problème de la pollution des mers. Boyan veut démontrer le contraire avec le soutien d'une centaine de scientifiques et d'ingénieurs bénévoles. Il a également organisé une immense campagne de recrutement pour étoffer son équipe. Après 4 ans de travail acharné et plusieurs campagnes de financement participatif ayant récolté plus de 2 millions de dollars, Ocean Cleanup passe à l'étape supérieure. Après avoir testé dans une grande piscine un filet flottant en forme de V qui utilise les courants marins naturels pour récolter les détritus, va être placé au large des côtes néerlandaises en mer du Nord dès le printemps. Ce premier test en mer, à petite échelle, sera réalisé au moyen d'un filet de 100 mètres de long. Il s'agirait d'une étape préliminaire à un essai à plus grande échelle, prévu au large des côtes japonaises avec un filet de 2 km. Même si on est encore loin du filet de 100 km nécessaire pour purger les océans envahis de plastique, le projet de Boyan Slat semble continuer d'avancer dans la bonne direction.
Take a life, take a dream on.
C'était Morgane sur CFM dans Les hommes sont des animaux comme les autres. Je vous quitte avec une citation de Pierre Rabhi. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de crise, elle est surtout humaine. Le problème est de savoir quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants allons-nous laisser à la planète.
Trajectoire de la course à l'instantané.